revolution, I'm in love. Cause I don't wanna be here and be stuck. Wish we could have transitioned together. I gave you all I had, gave you my trust. No one ever tells you when it's fucked. No one ever tells you it will probably leave.
Bonsoir, bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes de nouveau ce mercredi à 20h, il est 20h01, avec l'émission Il est noir de l'Union communiste libertaire. Eh bien, rebonsoir donc à tout le monde, hein, comme je le disais, à toutes et à tous. Idée noire, donc comme tous les mercredis de 20h à 21h, c'est l'émission de l'Union communiste libertaire, voilà. Donc, on va avoir quelques sujets à évoquer, et bien entendu, il y aura des luttes sociales, enfin, et puis tout un tas d'autres choses que mon collègue qui est ici devant moi m'a caché.
Tout à fait, top secret.
Donc, on va démarrer déjà par une petite annonce, une grande annonce même plutôt.
Ouais, c'est ça en fait, ouais, donc bonsoir à toutes et à tous. Oui, on va démarrer par un rendez-vous qui a lieu demain et ça fera la thématique un petit peu de l'émission pour moi en tout cas. Demain à 18h, place de la Comédie, avec un rassemblement organisé par le collectif Droits des Femmes dont fait partie le groupe lyonnais de l'Union communiste libertaire. Rassemblement pour la journée internationale pour le droit à l'avortement. Donc je vais commencer par vous lire le tract fédéral de l'UCL avant de faire un petit focus de où on en est un petit peu par rapport au droit à l'avortement en France, en Europe et dans le monde. Donc le tract est le suivant. Avortement gratuit partout, pour toutes et tous et tout le temps. Le 28 septembre est la journée internationale du droit à l'avortement. Cette année encore, il est crucial de se mobiliser massivement en France et partout dans le monde. Le contrôle du corps des femmes et des minorités de genre est un levier puissant de la domination patriarcale et bien souvent un cheval de Troie du fascisme. Chercher à contrôler nos corps, c'est chercher à s'asseoir une domination sur nos vies. Si le droit à l'avortement semble acquis en France, ce n'est pas du tout le cas. Comme l'a montré l'échec de la constitutionnalisation du droit à l'IVG, l'état des forces en France est peu favorable à ce droit pourtant fondamental. Il demeure ainsi fragile, susceptible de disparaître au gré des gouvernements, de leurs projets de loi et de la restriction de l'accès aux soins. Il peut nous être retiré. Les États-Unis l'ont montré en 2022, le droit à l'avortement est de plus en plus menacé. Pendant que Macron forme de jolies promesses à l'occasion du 8 mars, jamais tenues, les subventions au planning familial sont supprimées et les idées réactionnaires progressent, comme en témoignent notamment les campagnes anti-IVG, qui ont couvert les Vélib de plusieurs villes de France en juin 2023, et ça a été le cas à Lyon notamment. Partout sur le territoire, des femmes et minorités de genre n'ont pas ou plus accès à l'IVG, faute de moyens dans les hôpitaux et les associations, et à cause de lourdeur de la procédure. L'année dernière, nous avons gagné l'allongement de 12 à 14 semaines du délai légal pour avorter et plusieurs villes de France ont connu leur plus grande mobilisation à l'occasion du 28 septembre. Nous ne devons pas faiblir. Soyons de plus en plus nombreux et nombreuses dans cette bataille. La solidarité est notre arme en France comme à l'international. Et à l'instar de nos sœurs au Mexique qui ont conquis le droit à avorter ce mois-ci, continuons la lutte pour que notre liberté à disposer de nos corps soit enfin pleinement respectée. Ce 28 septembre 2023, nous nous battons pour donc des moyens pour l'hôpital public et les associations qui luttent au quotidien pour permettre l'accès à l'IVG, pour que le droit à l'IVG soit enfin une réalité, la suppression de la double clause de conscience, la suppression, comme au Canada, de tout délai légal ou temps de réflexion imposé dans les parcours IVG, le développement de l'éducation à la vie, affective et sexuelle, seule garante d'un choix véritablement libre et éclairé, la formation obligatoire des personnels de santé pour améliorer l'accès des personnes trans, intersexes et ou non-binaires aux soins gynécologiques, et la dépénalisation de l'avortement partout dans le monde. Donc voilà pour le tract UCL pour la journée de demain. Et comme je vous le disais, on va en profiter pour faire un gros point voilà, sur cette thématique-là, pour savoir un petit peu où on en est. Alors le tract, on parle un petit peu là, sur le tract de l'UCL, le tract fédéral, mais on va aller un peu plus loin, un peu plus en profondeur sur ce qui se passe en France, en Europe et dans le monde, comme je vous disais tout à l'heure. Donc comme c'est rappelé dans le tract, vous rappelez qu'il y a ce délai du coup légal qui est passé de 12 à 14 semaines, ce qui est déjà un grand progrès et c'est déjà bien passé, mais il y avait aussi à se méfier énormément... du coup, la virulence des attaques anti-IVG, la désinformation véhiculée par les réseaux sociaux, qui oblige vraiment à la vigilance quand ce n'est pas une contre-offensive politique en règle. Par exemple, ça a été le cas notamment dans d'autres pays, comme on verra tout à l'heure. Dans ce contexte, il y avait plutôt une bonne nouvelle l'année dernière, ça fait presque un an, hein, c'est le jeudi 24 novembre. Pour une fois à l'Assemblée nationale, donc, ça avait été plutôt rassurant parce que par 337 voix pour, 18 abstentions et 32 voix contre, les députés avaient voté pour que l'accès à l'IVG, autorisé en 75 par la loi Veil en France, bénéficie d'une protection juridique supplémentaire. Voilà, si le processus arrive à son terme, il sera inscrit dans la Constitution française que la loi garantit l'effectivité et l'égal accès du droit à l'IVG. Donc ça, c'était la bonne nouvelle l'année dernière. Donc, il y avait le passage au Sénat qui était un peu compliqué parce que Sénat... plus à droite que l'Assemblée nationale, qui pouvait, voilà, on se disait, voilà, ça va reculer, ils vont changer les choses, mais en fait, depuis, plus rien. Macron, comme dit dans le tract tout à l'heure, avait fait des grandes promesses le 8 mars en disant que ce serait fait dans les mois qui viennent, qu'il allait... En fait, il faut que ça passe au Sénat. Ensuite, il faut que ça retourne à l'Assemblée nationale, et ensuite, pour un changement constitutionnel, il faut que ça passe par référendum. Les sondages étaient plutôt favorables pour que ce soit un large oui, pour que ce soit ancré dans la Constitution. Mais pour le moment, c'est pas le cas, et ça inquiète un petit peu, parce que du coup, plus on laisse de temps sur ces choses-là, plus les adversaires peuvent s'organiser et organiser la riposte. Il y a aussi, comme disait le tract, le manque de praticiens, pardon. Parce que du coup, c'est aussi ça qui joue, c'est les centres du coup IVG qui sont fermés, des fois un par un. Manque de praticiens, l'information parfois défectueuse dont disposent les femmes, au fait que certains médecins et services hospitaliers rechignent à pratiquer un acte peu valorisant financièrement. L'IVG reste pour trop nombreux femmes un parcours du combattant. Les inégalités en région notamment sont criantes, ainsi que le montre le rapport parlementaire de la délégation aux droits des femmes. Beaucoup se retrouvent hors délai faute de prise en charge, ce qui a poussé donc le législateur à allonger ce délai de 2 semaines, même si c'est pas satisfaisant au final. Et donc du coup, on voulait faire un petit tour, voilà pourquoi pas déjà en Europe. Alors en Europe, l'IVG il est autorisé pratiquement dans la quasi-totalité des pays européens. Le délai d'autorisation, par contre, pour avorter peut varier d'un pays à l'autre. Certains pays dits progressistes entre guillemets, hein, comme la Suède, le Royaume-Uni et les Pays-Bas, donc permettent aux femmes d'avorter jusqu'à 18 semaines et 24 semaines de grossesse. Royaume-Uni et Pays-Bas. Pour d'autres, comme le Portugal ou la Suisse, le délai est plus restreint, c'est 10 semaines. Et donc en France, du coup, c'est passé de 12 à 14 semaines, comme on l'a dit tout à l'heure. En Irlande, l'IVG n'est légal que depuis 2018, 5 ans seulement, suite à un référendum historique abrogeant son interdiction constitutionnelle. Le droit n'a été libéralisé en Irlande du Nord que l'année suivante, en 2019. Mais alors que les avortements clandestins causent la mort de près de 50 000 femmes en moyenne chaque année selon les derniers chiffres officiels, il subsiste un pays en Europe où l'IVG, où le droit à l'IVG est strictement prohibé, ainsi que 2 micro-États. Alors, quels sont-ils ? Il y a Malte. L'archipel de Malte est l'unique pays de l'Union européenne à prohiber strictement l'avortement. Dans ce pays, à la tradition catholique particulièrement conservateur, toute femme qui interrompt sa grossesse en cours, je reprends, qui interrompt sa grossesse en cours, une peine de 18 mois à 3 ans d'emprisonnement. Les médecins risquent de leur côté 4 ans de prison et l'interdiction d'exercer. Donc ça, c'est à Malte. À Andorre, l'IVG est interdite, et ce, y compris en cas d'inceste, de viol, d'anomalie grave du fœtus, ou si la vie de la mère est menacée par la grossesse. Les femmes pratiquant l'IVG risquent 6 mois d'emprisonnement. La personne qui le réalise en cours jusqu'à 3 ans d'emprisonnement, et s'il s'agit d'un professionnel, l'interdiction d'exercer est prononcée pendant 5 ans. À Andorre, récemment, il y a eu de nouveau une tentative de faire passer ce droit à l'avortement, et ça a été un échec total. Au Vatican, micro-État du Vatican, prohibe également l'avortement à n'importe quelle condition. Considéré comme plus modéré que ses prédécesseurs, le pape François qualifie l'avortement de tueur à gages. Comment un acte qui supprime la vie innocente peut-il thérapeutique, civil ou tout simplement humain, estime le souverain pontife, voilà ce qui peut déjà faire un peu bouger les choses pour les gens qui pensent que c'est quelqu'un de très progressiste. Dans d'autres pays, c'est vraiment compliqué, notamment en Pologne. Et on fera un petit focus sur la Pologne juste après. Et notamment, voilà, c'en est un, la Pologne, mais dans certains pays autres aussi, où l'Église catholique ou orthodoxe est encore très influente, des tentatives de restriction de l'avortement sont parfois entreprises. C'est le cas en Slovaquie, où une dizaine de propositions de loi pour en limiter l'accès ont été déposées ces deux dernières années. En Roumanie et en Italie, un grand nombre de médecins « objecteurs de conscience » entre guillemets refusent de pratiquer l'interruption de grossesse, alors que la devise de la nouvelle chef du gouvernement italien Giorgia Meloni et Dieu, famille, patrie, il faut s'attendre à ce que les rangs de ces médecins qui représentaient déjà 71% des praticiens en 2016 se gonflent davantage. Même si on a une loi depuis longtemps qui donne la possibilité aux femmes d'avorter, dans beaucoup de régions, on a des gynécologues objecteurs de conscience et cela oblige certaines femmes à aller soit dans d'autres régions en Italie, soit à l'étranger. Je voulais faire un petit focus sur la Pologne parce que c'est quand même un pays assez particulier. Parce qu'elle a l'une des lois sur l'avortement les plus restrictives d'Europe. Donc voilà, avec Malte, hein, c'est l'un des deux seuls États membres de l'Union européenne qui n'a pas légalisé l'avortement sur demande ou pour des motifs sociaux élargis. Pourtant, au XXe siècle, ce pays a été l'un des premiers à alléger les restrictions d'accès à l'avortement sur le continent. Ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'en 1956, en Pologne, l'avortement n'était autorisé que dans 3 cas. S'il existait un danger de la vie pour la mère, en cas de viol ou d'inceste, et en cas de malformation du fœtus. Cependant, à partir du 27 avril 1956, des motifs sociaux sont ajoutés aux raisons légales pour avorter. Deux points. Donc les femmes, par exemple, qui justifient de conditions socio-économiques difficiles, famille monoparentale, pas ou peu de revenus, une situation de pauvreté générale, peuvent désormais y avoir accès. Une avancée très importante puisqu'elle intègre la notion de choix pour les femmes et les personnes enceintes. Dans les années 60 et 70, des femmes et personnes souhaitant avoir recours à l'avortement provenant d'autres pays européens se rendaient en Pologne afin d'interrompre leur grossesse. Donc comment ce pays, qui a été un petit peu à l'avant-garde en Europe de la protection de ce droit essentiel, s'est-il retrouvé avec l'une des lois les plus restrictives en matière d'avortement? Les dates clés sur le droit à l'avortement en Pologne, les voici, donc avril 56 comme je vous disais. 1993, retour en arrière. Les motifs sociaux sont supprimés des raisons légales pour avorter. 2011, 2013, 2015, 2016, 2018, de nombreuses offensives contre le droit à l'avortement sont exercées par les mouvements anti-choix et le Parlement polonais. Et grâce aux mobilisations massives, ces tentatives n'aboutissent pas. Le 22 octobre 2020, le tribunal constitutionnel polonais interdit l'avortement en cas de malformation du fœtus. Et où en sommes-nous donc aujourd'hui? Aujourd'hui, en Pologne, l'avortement n'est autorisé qu'en cas de danger pour la vie ou la santé de la femme ou personne enceinte, ou si la grossesse découle d'un viol ou d'un inceste. Dans la pratique, cependant, il est quasi impossible pour les personnes éligibles à un avortement légal de l'obtenir. Chaque année, des milliers de femmes et personnes enceintes quittent la Pologne pour interrompre leur grossesse dans d'autres pays européens. Chaque année, donc voilà, dans d'autres pays européens, tandis que certaines importent des pilules abortives ou cherchent des moyens non légaux d'avorter en Pologne. Les femmes et autres personnes polonaises souhaitant avorter, particulièrement celles qui sont dans des situations précaires, dépendent de l'aide cruciale des organisations de la société civile qui disposent souvent de ressources limitées. Et par exemple, un autre exemple, le 22 septembre 2021, donc il y a à peu près 2 ans, une femme est morte après s'être vue refuser l'accès à des services d'avortement alors qu'une malformation du fœtus était avérée. Et en 2021, plus de 1000 femmes se sont tournées vers la Cour européenne des droits de l'homme pour faire valoir leurs droits et contester la loi sur l'avortement en Pologne. En juin 2022, la Cour européenne des droits de l'homme a demandé des explications, formidable, à la Pologne sur 5 nouvelles affaires concernant des refus d'accès aux services d'avortement. Des membres de la société civile et des associations continuent à se mobiliser pour que l'accès soit de nouveau sûr et légal en Pologne. C'est le cas du collectif Abortion Dream Team qui fait campagne en faveur du droit à l'avortement et propose des conseils et des informations pour accompagner les personnes qui souhaitent avorter. Justyna Wrydinska, l'une des fondatrices de ces fondatrices, a dédié plusieurs années de sa vie à ce combat pour un avortement sûr et légal dans le pays. Aujourd'hui, cette militante de 47 ans est harcelée par les autorités polonaises. La justice l'a récemment condamnée à 8 mois de travaux d'intérêt général pour avoir aidé une femme à avorter. Le but des autorités polonaises est clair, museler toutes les voix qui critiquent leur politique anti-avortement. Nous sommes à côté de toute personne qui défend le droit à l'avortement en Pologne et partout dans le monde, se défend-elle. Ce que je vous propose après ce petit focus sur le droit à l'avortement en France et en Europe, c'est de faire une petite pause musicale. Derrière, on fera une première page de lutte sociale et on enchaînera sur du coup là où on en est dans le monde. Et donc, une petite chanson de circonstance, un classique qu'on a dû peut-être passer l'année dernière à la même date, mais c'est pas grave. Non, tu n'as pas de nom, d'Anne Sylvestre. C'est parti.
Tu n'as pas de nom, non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Oh non, tu n'es pas un être, tu le deviendrais peut-être si je te donnais asile, si c'était moins difficile, s'il me suffisait d'attendre, de voir mon ventre se tendre, si ce n'était pas un piège, ou quel doute sortilège. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Savent-ils que ça transforme l'esprit autant que la forme qu'on te porte dans la tête, que jamais ça ne s'arrête. Tu ne seras pas mon centre. Que savent-ils de mon ventre? Pensent-ils qu'on en dispose quand je suis tant d'autres choses? Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Déjà, tu me mobilises. Je sens que je m'amenuise et d'instinct je te résiste. Depuis si longtemps j'existe, depuis si longtemps je t'aime, mais je te veux sans problème. Aujourd'hui je te refuse. Qui sont-ils ceux qui m'accusent? Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. À supposer que tu vives, tu n'es rien sans ta captive. Mais as-tu plus d'importance, plus de poids qu'une semence? Oh, ce n'est pas une fête, c'est plutôt une défaite. Mais c'est la mienne et j'estime qu'il y a bien de victimes. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Ils en ont bien de la chance, ceux qui croient que ça se pense. Ça se hurle, ça se souffre, c'est la mort et c'est le gouffre. C'est la solitude blanche, c'est la chute, l'avalanche. C'est le désert qui s'égrène, larme à larme, peine à peine. Non, tu n'as pas de nom, non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Quiconque se mettra entre mon existence et mon ventre n'aura que mépris ou haine, me mettra au rang des chiennes. C'est une bataille lasse qui me laissera des traces, mais de traces je suis faite, et de coups et de défaites. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom.
Et et vous êtes toujours à l'écoute de Radio Canu avec l'émission Idées Noires des militantes et militants de l'Union Communiste Libertaire. Et après cette petite page musicale d'Anne Sylvestre, Allô Lapien en 98, on va passer à une petite page, une grande, je ne sais pas, de lutte sociale, car vous l'avez cachée aussi, donc voilà, je ne sais pas si c'est une grande ou une petite.
Oui, on peut parler de grandes pages. quelques luttes sociales donc, de ce mois de septembre. On va commencer par Truite Saint-Léger et Leffrin-Cook. C'est dans le Nord. Ce sont deux villes qui sont proches l'une de l'autre. En grève depuis le 1er septembre et illimité, c'est chez Valdunès, dont on a déjà parlé ici à ce micro, et c'était avant les vacances, avec la mise en place d'un piquet et occupation de la gare du Poirier. C'était le 5 septembre. Par 60 salariés pour protester contre une reprise et des repreneurs qui mettraient à sac la forge, selon le syndicat CGT. Alors Valdunes, ou Valdunès, comme vous le préférez, est une entreprise de la métallurgie qui produit des roues pour les trains, trams, etc. S'est trouvée donc en difficulté avant les congés, je vous le disais, pour sortir donc 340 salariés de l'impasse. Eh bien, la CGT a un projet sauveur, un consortium qui consiste donc à un consortium avec la SNCF et Alstom pour les deux sites. Pour cela, un déplacement a été mis en place vers Bercy. Bercy, vous connaissez, c'est le ministère de l'économie. Et aussi vers le ministère de l'industrie, la CGT, la SNCF et Alstom pour une aide de l'État. Bonne chance. À hauteur d'une cinquantaine de millions donc, d'euros sur 3 ans, ce qui serait possible pour remonter un petit peu la pente. Donc les actions devaient continuer jusqu'au 8 septembre, date limite des dépôts de candidature pour les repreneurs éventuels. Puis c'est une suite le 19, puisque les grévistes suspendaient leur lutte afin d'étudier en toute quiétude le projet cégétiste. Alors rappel, c'est que la société avait été abandonnée par ses principaux actionnaires et qui apparemment sont partis tranquilles, les mains dans les poches, et les poches pleines, hein, je peux le dire, avec un bon paquet de fric. Et toutefois, les grévistes ont obtenu, malgré tout, le paiement à 50% des jours grévés, enfin c'est-à-dire des heures, et 1000 euros de prime pour septembre, et ils recevront également une prime de 600 euros pour octobre. C'est histoire de calmer un petit peu les esprits échauffés un petit peu par cette affaire qui n'est pas terminée. Paris maintenant, avec une grève de travailleurs sans papier du groupe NTI, qui est une société de nettoyage industriel et de traitement de déchets. Une grève de travailleurs sans papier exploitée par cette société sous-traitante de Veolia, qui est en fait la société donneuse d'ordre à la société NTI, mais Veolia refuse de voir les problèmes des travailleurs sans papier, puisque c'est pas elle. De même que les conditions de travail indignes, c'est pas elle. Exploiter des travailleurs sans papier, c'est pas elle. Travail illicite, c'est pas elle. Non-respect des conditions de travail, c'est pas elle. Et des normes de sécurité aussi non respectées, c'est toujours pas elle. Donc la CGT sur place exige la régularisation des travailleurs sans papier et un CDI pour 10 personnes et aussi réclame et exige un devoir de vigilance des sociétés donneuses d'ordre. Mobilisation maintenant, c'est chez les enseignants et les enseignantes, hein, y en a. Voilà, comme dans tout corps de métier. Eh bien, ici, j'ai pris l'exemple de Nantes. C'est le 4 septembre avec le collège Aristide Briand. Les personnels, à savoir, je suppose, pas que le corps enseignant, se sont mobilisés et protestés contre les conditions de travail. Les classes surchargées, le manque de matériel, comme des chaises, des bureaux pour les assistants et assistantes d'éducation. Par contre, pour le renouvellement des problèmes, ça c'est du tout cuit, hein, comme avant que c'était pareil. Vittel et Contrexéville, c'est deux villes qui sont dans les Vosges, n'est-ce pas? C'était le 5 septembre et ça se passe évidemment chez Nestlé Waters avec son eau éponyme. Un rassemblement à près de 400 personnes. Ce 5 septembre se tenait donc une réunion des dirigeants de Nestlé France et des deux villes également. Le sujet des suppressions de postes évidemment était au menu. Le cortège a été rejoint par des habitants et des habitantes et des salariés du centre hospitalier Ravenel, qui est un centre psychiatrique. 171 postes seront supprimés chez donc Nestlé Waters France. 171 supprimés pour un effectif de 221. L'intersyndicale traite les points cruciaux, dont la fin de carrière que la direction dénigre et renvoie aux négociations d'un PSE, ce qui a déclenché une grève illimitée. Alors, ça concerne également les pré-retraites, les congés d'aménagement de fin de carrière pour un départ à taux plein et éviter les licenciements secs. La direction a en fait décidé d'une réorganisation. Voilà, d'où donc ces suppressions de postes. Donc, choix stratégique selon l'intersyndicale CGT et FO, CGC. C'est un choix de la direction qui date de février 2022, dont j'éviterai les détails fastidieux. Le PSE a été annoncé en mai 2023. Donc, je le disais et je le répète, grève en attente des décisions de la direction et défendre donc les intérêts des salariés pour avoir zéro licenciement. Alors, les profits Nestlé, on peut jeter un petit coup d'œil dessus quand même, selon la CGT. c'est 16 milliards de francs suisses, autrement dit près de 17 milliards d'euros. C'était un chiffre de 2022 et 94 milliards d'euros à l'actionnaire, enfin distribués évidemment aux actionnaires en 5 ans, selon toujours le syndicat CGT. Le 4 septembre, sur la commune de Lac, dans les Pyrénées-Atlantiques, Axplora exerce ses qualités de grand chimiste, mais aussi celles de répression syndicale sur deux CGTistes menacés, notamment de licenciement pour leur travail syndical auprès des salariés. Alors, appréciés de leurs collègues, ils ont reçu un soutien d'une centaine de personnes en un rassemblement. D'autres salariés ont rejoint les rangs des travailleurs d'Axplora, qui est une multinationale de la pharmaceutique, en soutien comme ceux aussi de Toray, dont la direction n'a pas hésité à demander une garde à vue pour quatre syndicalistes de la CGT qui dérouillent en ce moment.
Oui.
Tarbes, maintenant, on reste dans les Hautes-Pyrénées, enfin du moins dans les Pyrénées, cette fois c'est les Hautes-Pyrénées, Tarbes, le 7 septembre, avec des inquiétudes aux forges de Tarbes. Mouvement social pour manque de transparence, bigre. Les cacheteries de la direction, on fabrique aux forges des enveloppes d'obus. Mais oui, et fournit donc l'armée française. Alors la CGT est là également. L'inquiétude tient à une activité en plein essor. Excusez-moi du peu, mais c'était dans les commentaires. En plein essor, on veut bien le croire. Mais les investissements font défaut. Par contre, un ex-délégué syndical a écopé d'une procédure de licenciement injustifiée, d'où les débrayages aux ateliers. Alors aussi, il y a la CGT qui exige plus de transparence quant aux espoirs de production et demande la mise en place d'une commission du suivi du projet pour fabrique d'obus et... pas de commentaires, no comment. Donc Perpignan maintenant dans les Pyrénées-Orientales. Oui, c'est pas là-bas que j'ai passé mes vacances, mais ça fait rien. Il y a des choses qui se passent aussi dans les Pyrénées. Donc à Perpignan le 6 septembre, avec un appel de la CGT et de FO à l'intention des salariés de l'agence routière du département. Alors mettez-vous en grève. C'est ce qui leur a été dit, car il n'y a que ce moyen pour se faire entendre et obtenir des embauches. Des vêtements adaptés aux conditions de travail. L'agence, c'est 42 agents, qui assure la maintenance et l'entretien des routes. Autre revendication, c'est l'actualisation du régime indemnitaire. Alors, pas de réponse satisfaisante de la direction. Eh bien, grève après un préavis. Et puis, il y a aussi il y a des mouvements de grève qui ne payent pas de mine, je dirais. Comme à Nantes, par exemple, où il y a 30 salariés de la marque épicière Tipiak en grève le 4 septembre, avec piquet de grève, s'il vous plaît, à l'établissement même pour les salaires et la réouverture des négociations, et tout ça avec la CGT. Par contre, là où ça fait mal, une grève des transports en commun, oui, c'est toujours douloureux, ou des menaces, évidemment, de grève des transports en commun, comme à Toulouse, chez Tisséo, c'était le 8 septembre, jour précisément du match de la Coupe du Monde de rugby, et pour une heure, et enfin, deux services. Alors, ça bagarre depuis, en fait, chez Tisséo, depuis avril, dans la ville rose, pour le maintien d'une clause. Sur, je dirais que ça rime, enfin, bon, on va se passer de plaisanteries, et sur le maintien, donc, des salaires à hauteur de l'inflation et pas ce que propose la direction, c'est-à-dire beaucoup moins. Grève comme une sorte de test match, des prévisions de participation placées hautes et entre les poteaux. Si on doit tenir jusqu'à la fin de la Coupe du Monde, eh ben on le fera. Ça, c'est les paroles de l'intersyndicale et des grévistes, bien entendu, de la CGT, de Sud, de la CFDT et de la FNCR, c'est la Fédération Nationale des Chauffeurs Routiers. Alors, il y a à propos de ces grèves, là, pendant les rencontres sportives, il y a un pignouf de la bande à Zemmour, qui s'appelle Carl Olive, qui se dit favorable à l'interdiction des grèves et préavis même de grève pendant les grands événements sportifs.
Bah oui, pour éviter pour les JO, on va préparer ça, hein, tranquillement. Oui, oui.
Donc, les veilles et les avant-veilles. Ah oui. Donc, il a précisé quand même les réunions sportives, hein, bien sûr, hein, ça vise les sportifs. Mais pas les apparitions publiques, évidemment, de son patron, qui sont assez sportives par moment. On dira même chahuteuses, et voire même chahutées. Alors, il y a aussi, pour terminer cette première page, il y a une alarme sociale. Alors, alarme sociale, je n'avais pas encore entendu. C'est une trouvaille du syndicat EFO, mais pourquoi pas. C'était fin août, début septembre, chez Transdev, à Marseille, pour une revalorisation des salaires. Et la suite n'est pas brillante. Faute de majorité syndicale, eh bien le syndicat EFO, les salariés grévistes ont dû suspendre le mouvement le 7 septembre pour être repris éventuellement la semaine prochaine. Ça concernait quand même 70 personnes, voilà, sur Marseille. Pour cette première page,
c'est tout bon,
c'est pas mal.
C'est pas trop mal. Et donc, du coup, tout à l'heure, avant la pause musicale et cette page de lutte sociale, on avait fait un petit focus sur pour le droit à l'avortement en France et en Europe. Et je propose vraiment de faire un petit tour au niveau mondial pour savoir où on en est. Avant de faire un petit focus au niveau mondial, parce que ça va parler forcément des États-Unis et ce qui s'est passé cette année, je voulais revenir du coup sur ce que c'était ce fameux arrêt Roe versus Wade qui a fixé le cadre légal de l'accès à l'IVG aux États-Unis en 73. Donc cet arrêt du coup qui servait de base, eh ben le vendredi 24 juin de cette année, la Cour suprême a donc annulé cet arrêt qui accordait aux Américains le droit d'avorter dans tout le pays, donc laissant les États américains libres d'interdire l'IVG. Voilà, il est sans doute l'arrêt le plus connu de la Cour suprême des États-Unis. Donc ce 22 janvier 73, la proclamation donc de l'arrêt Roe versus Wade, donc accordé aux Américains le droit d'avorter de partout. Un droit donc que la plus haute juridiction du pays a remis en question le 24 juin en révoquant celui-ci. Avec cette décision historique, les États-Unis reviennent donc à la situation en vigueur avant cet arrêt, avant 73, où chaque État avait compétence pour interdire ou pour autoriser l'avortement. Donc c'est donc dans le Connecticut que la première loi sur l'interruption volontaire de grossesse est promulguée aux États-Unis en 1821. Elle s'oppose à l'avortement par la prise de tout type de poison, entre guillemets, pour des questions sanitaires avant tout. Toutefois, au cours du 19e siècle, l'avortement est toléré par la société américaine. Mais en mars 1873, le Comstock Act est adopté par le Sénat. Cette loi fédérale réprime, entre guillemets, le commerce et la circulation de la littérature obscène et des articles d'usage immoral et interdit aussi la publication d'informations sur la reproduction, les outils et les médicaments servant à l'avortement ou à la contraception. En 1880, sous la pression d'une partie du corps médical, la pratique de l'avortement est rendue criminelle, sauf si la vie de la mère est en jeu. Et donc, près d'un siècle plus tard, 14 États réforment et 4 autres abrogent leurs lois restrictives sur l'avortement. En 1967, la Cour suprême de Californie se positionne en faveur de la liberté d'avorter. En 70, les États de New York, de Washington, d'Hawaï et de l'Alaska abrogent leur loi interdisant l'avortement. Ils l'autorisent notamment lorsque la grossesse résulte d'un viol ou d'un inceste. Par ailleurs, les dispositions du Comstock Act relatives à la contraception sont abrogées. Et c'est donc en 73 aux États-Unis que le pays, dans son ensemble, vit un tournant historique. Le 22 janvier, donc, la Cour suprême des États-Unis décide par sa décision que le droit au respect de la vie privée, garanti par la Constitution américaine, s'applique également à l'avortement. Dans ce dossier, tout commence 3 ans plus tôt. Norma McCorvey, mère célibataire de 21 ans et enceinte pour la 3e fois, souhaite avorter, chose interdite dans plusieurs États, dont le Texas où vit la jeune femme. Elle se tourne vers les avocates Sarah Weddington et Linda Coffey, qui contestent au nom de plusieurs femmes enceintes la législation texane, laquelle fait de l'avortement un crime. Maître Coffey dépose alors une plainte au tribunal de Dallas en 70 au nom de Jane Roe, le pseudonyme choisi par Norma McCorvey. La défense de Jane Roe se base sur le manque de précision des lois anti-avortement du Texas et leur contradiction avec plusieurs articles de la Constitution des États-Unis. Henry Reid, procureur de Dallas et représentant de l'État du Texas dans cette affaire, gagne le procès devant la Cour fédérale. Mais Jane Roe et ses avocates font appel et la plus haute juridiction du pays se saisit du dossier. Après avoir entendu les parties à 2 reprises, la Cour suprême attend l'élection présidentielle de novembre 72 et la réélection du républicain Richard Nixon pour rendre son arrêt, adopté à 7 voix contre 2. Reconnaissant déjà la entre guillemets, nature sensible et émotionnelle du débat sur l'avortement, les points de vue rigoureusement opposés, même parmi les médecins, et les convictions profondes et absolues que le sujet inspire, la Haute Cour a, au bout du compte, annulé les lois du Texas sur l'avortement. La décision donc, qui a fait jurisprudence dans une majorité d'États américains où des lois similaires étaient en vigueur, stipule donc que le droit au respect de la vie privée présent dans le 14e amendement de la Constitution est suffisamment vaste pour s'appliquer à la décision d'une femme de mettre fin ou non à sa grossesse. Une loi du type de celle du Texas qui fait de l'avortement un crime, sauf quand la vie de la mère est en danger sans tenir compte du stade de la grossesse ni des autres intérêts en jeu, viole donc ce 14e amendement de la Constitution. Et donc la jurisprudence fixe ainsi le cadre légal de l'accès à l'avortement. Celui-ci est autorisé jusqu'au seuil de viabilité, stade à partir duquel un fœtus peut survivre en dehors de l'utérus, soit environ de 22 à 24 semaines de grossesse. Mais la Cour s'était rangée à l'avis du tribunal de première instance, selon laquelle le droit au respect de la vie privée n'était cependant pas absolu. À un certain stade, les intérêts de l'État et la protection de la santé des critères médicaux et de la vie prénatale deviennent dominants, soulignait le juge Harry Blackmun, qui rédigea le texte au nom des 9 sages. Et donc la haute juridiction donnait ainsi raison à Jane Roe, mais rejetait les recours qualifiés d'irrécevables du médecin James Holford et du couple John et Mary Doe, qui attaquaient pour leur part la législation sur l'avortement en Géorgie. Roe versus Wade était accompagné de la décision Doe versus Bolton, qui autorise chaque État a ajouté donc des restrictions au droit à l'avortement quand la grossesse est avancée. Le droit constitutionnel à l'avortement a été ensuite confirmé par d'autres décisions. Donc ça, c'était la base aux États-Unis, parce qu'on va y revenir aussi par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Donc ce qu'il faut savoir, donc ça c'était en 2022, hein, voilà, on aura les chiffres définitifs 2023 à la fin de l'année, mais en 2022, donc la Fédération internationale pour les droits humains, la FIDE, avec un H à la fin, plaide depuis de nombreuses années pour la reconnaissance donc, et la sauvegarde des droits sexuels et reproductifs. Si des victoires ont été enregistrées en 2022, nombre de ces droits sont encore inopérants en 2022. Le recul, donc, comme je l'ai dit, que représente la décision Roe versus Wade aux États-Unis, est l'occasion de revenir sur le droit à l'avortement dans le monde. Et donc en annulant donc cette décision Roe versus Wade, donc, la Cour suprême des États-Unis a renversé la garantie constitutionnelle Donc cette décision choquante et rétrograde a été vivement dénoncée par la société civile et les Nations Unies, car elle prive des millions d'Américaines d'un droit fondamental et nie l'existence des principes universellement reconnus d'autonomie corporelle, d'autodétermination et d'égalité. Et il n'a fallu que quelques heures à certains États comme l'Alabama et le Missouri pour imposer donc une interdiction totale de l'avortement, même en cas d'inceste, de viol ou de danger pour la vie de la personne enceinte. D'autres États ont immédiatement mis en place des restrictions importantes, comme dans l'Ohio, qui n'autorise plus l'avortement après 6 semaines. Les conséquences sont déjà donc dramatiques, notamment pour les personnes en situation de vulnérabilité et en particulier les femmes pauvres et les personnes victimes ou susceptibles d'être victimes de discrimination. Ne pouvant accéder à un avortement légal et pratiqué par des professionnels, ces personnes se tourneront inévitablement vers des procédures clandestines peu sûres. Cela s'ajoutera aux 25 millions d'avortements non sécurisés pratiqués chaque année, selon l'OMS, entraînant de nombreux décès et de nombreuses blessures pourtant inévitables. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque année, donc une grossesse sur 4 se termine par un avortement. Restreindre ou interdire l'avortement ne supprime pas le besoin d'avorter, mais met en danger la vie des personnes concernées. Il n'y a pas de différence statistique entre les États qui criminalisent l'avortement et ceux qui ne le font pas. Le taux d'avortement est de 37 pour 1000 personnes, dans les pays qui interdisent totalement l'avortement ou ne l'autorisent que dans certaines circonstances pour sauver la vie d'une femme enceinte, et elle est de 34 pour 1000 dans les pays qui autorisent largement l'avortement. Donc face aux régressions et aux menaces qu'il subit, il est plus que jamais essentiel donc de protéger ce droit fondamental et d'en garantir l'accès pour toutes et tous. Donc l'accès à l'avortement sûr et abordable, pratiqué par des professionnels de santé offrant un service de qualité, c'est donc un droit fondamental en matière de sexualité et de procréation. Donc les États ont le devoir de le respecter, notamment en adoptant une législation appropriée et en réformant les cadres juridiques qui en empêchent l'exercice. Je voulais juste revenir un petit peu maintenant où on en était. Donc le droit à l'avortement est inégalement protégé dans le monde. Si l'interdiction totale reste l'exception, donc de nombreux États limitent l'avortement au cas où la santé ou la vie de la personne enceinte sont en danger. Par exemple, en Afrique subsaharienne, 6,2 millions d'avortements à risque sont pratiqués chaque année, causant au moins 15 000 décès évitables. De plus, en Amérique latine, 97% des femmes en âge de procréer vivent dans un État dont la législation restreint l'accès à l'avortement. Certains États européens, donc ça je vous l'ai dit tout à l'heure par rapport à Malte, en Hongrie aussi, on n'en a pas parlé, mais c'est aussi assez catastrophique avec l'État réactionnaire qu'il y a. Et je voulais vous emmener aussi dans d'autres pays, notamment... Donc on l'a vu sur l'administration Trump, du coup c'était un peu réduit. Et ça ressemble beaucoup aux nombreux États conservateurs qu'il y a dans le monde, comme au Brésil, en Égypte. Au Brésil à l'époque où il y avait Bolsonaro, bien évidemment. La Hongrie et la Pologne. Au niveau mondial, un rapport donc d'Ipsos datant de 2021 démontre qu'une majorité de la population soutient l'avortement. Il est intéressant de noter que le soutien à ce droit reste fort dans les États où il a subi d'importantes contestations, avec comme en Pologne, comme on en a parlé tout à l'heure. Au Mexique, par exemple, l'État mexicain en 2022 d'Oaxaca a légalisé l'avortement au cours des 12 premières semaines de grossesse par un projet de loi adopté en 2019. Cet État est l'un des plus pauvres du Mexique. Il n'était que le deuxième à légaliser l'avortement. Et aujourd'hui, en fait, la procédure a changé puisque depuis quelques jours, en ce mois de septembre 2023, l'avortement a été légalisé dans tout l'État du Mexique, ce qui est plutôt une très 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 bonne nouvelle. Par ailleurs, en décembre 2020, l'avortement a été complètement légalisé en Argentine, où il était auparavant autorisé qu'en cas de viol ou pour des raisons de santé. Au Bénin, une loi de 2021 a considérablement élargi les motifs pour lesquels une personne peut avoir recours à l'avortement, la même année, Saint-Marin a dépénalisé entièrement l'avortement jusqu'à 12 semaines de grossesse. Et plus récemment, le gouvernement de la Sierra Leone a approuvé un projet de loi dépénalisant l'avortement. Même si la légalisation ne suffit pas, bien évidemment, si des mesures ne sont pas mises en œuvre pour rendre ce droit effectif, parce qu'on peut très bien légaliser, mais bloquer tout après derrière. En Europe occidentale, on l'a vu, bien que l'avortement soit légal dans la plupart des États, de nombreux obstacles techniques ou procéduraux subsistent. Par exemple, on revient un petit peu en Europe, mais c'est pas grave, en Irlande du Nord, par exemple, l'avortement a été légalisé en 2019, mais l'exécutif de la région qui partage le pouvoir à Stormont, par exemple, n'a pas réussi à mettre en place des services qui permettraient effectivement d'accéder aux services d'avortement. Au Chili, bien que l'avortement soit désormais légalisé dans des cas spécifiques, 97% des femmes n'y ont toujours pas accès. Cela est dû en partie à l'application d'une clause institutionnelle d'objection de conscience qui autorise les institutions publiques à refuser de pratiquer les avortements. Et je voulais justement finir, et après je vous laisserai la parole, avec le Chili, si je retrouve ma feuille, parce que si vous le savez, je vais essayer de le faire de mémoire, mais au Chili avait été proposé une nouvelle constitution, et notamment avec ce droit à l'avortement qui devait être inscrit dans cette constitution. Je l'ai là, c'est tout bon, il était derrière. Donc voilà, je vous relis tout ça. Donc au Chili, ce conseil qui était chargé d'écrire la nouvelle constitution a approuvé mercredi 20 septembre un concept assez réactionnaire de protection de celui qui va naître. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Chili, depuis 2017, donc autorise l'avortement, mais dans trois cas, viol, fœtus pas viable, ou si la vie de la femme est en danger. Il y a un an, donc du coup, lors d'une première tentative de réécriture de la Constitution, le pays était allé plus loin en y inscrivant, voilà ce que je vous disais, le droit à l'IVG sans condition. Hein. Et c'est alors une première mondiale. Il y avait eu un référendum et la population a fini par rejeter cette proposition de texte et avec elle, l'accès inconditionnel à l'avortement. Donc aujourd'hui, l'année à la nouvelle Constitution est entre les mains de l'extrême droite et de la droite, majoritaire au sein du Conseil rédactionnel. Et à 33 voix contre 17, donc elles viennent, donc il y a très peu de temps, enfin ce mois-ci il me semble, d'approuver un article pour protéger la vie de celui qui va naître, concédant ainsi des droits à l'embryon. C'est encore plus radical que la constitution actuellement en vigueur, écrite sous la dictature. Donc en décembre prochain, si les Chiliens votent pour cette nouvelle constitution, et la loi sur l'avortement, sous trois conditions, ces trois pauvres conditions, hein, si viol, vétus pas viable et vie de la femme en danger, seront donc purement annulées. Et en 6 ans, là-bas, c'est près de 4000 femmes qui ont pourtant avorté en ayant recours à la législation chilienne. Donc voilà pour cette grosse page sur l'avortement. Je vous renvoie aussi...
Il y avait nécessité. Hein,
ouais, je vous renvoie aussi sur un dossier qui avait été fait par l'UCL l'année dernière, qu'on va sûrement pouvoir remettre à la plume noire à disposition. C'était un argumentaire qui s'appelait « Avorter le patriarcat, se battre pour notre liberté à disposer de notre corps ». Il date de 2022, mais c'est vraiment toujours d'actualité et on vous conseille donc de passer à la plume pour pouvoir vous le procurer, qu'on puisse en discuter en direct aussi. Donc voilà, je ne sais pas si vous voulez faire une petite pause musicale avant la deuxième page sociale.
J'ai une petite musique de deux minutes.
Eh bien allez, c'est parti.
Eh bien ça tombe bien parce qu'on va écouter donc Michel Bernard accompagné par les Ogres de Barbac. Et il nous interprète, elle n'est pas morte. C'est parti, tout de suite.
On l'a tué à coups de chasse-peau, à coups de mitrailleuse, et roulé avec son drapeau dans la terre argileuse. Et la tourbe des bourreaux gras se croyait la plus forte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Comme faucheur rasant un pré, comme on n'a pas des pommes, les Versaillais ont massacré pour le moins 100 000 hommes. Et ces 100 000 assassinats, voyez ce que ça rapporte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Ils ont fait acte de bandit, comptant sur le silence, achevé les blessés dans leur lit, dans leur lit d'ambulance. Et le sang inondant les draps ruisselait sous la porte. À lui servir d'escorte. S'il trouve en tout cas Nicolas et qu'il est temps de crier vive la commune. Et ça prouve à tous ces Judas si ça marche de la sorte. Ils sortiront dans le nom de Dieu, que la commune n'est pas morte. Ils sortiront dans le nom de Dieu, que la commune n'est pas morte. Ils sortiront dans le nom de Dieu, que la commune n'est pas morte. Ils sortiront dans le nom de Dieu, que la commune n'est pas morte.
Et vous êtes toujours à l'écoute d'Idées Noires, l'émission des militantes et militants de l'Union communiste libertaire, et à 20h48, une deuxième page de lutte sociale.
Oui, Hardy Petit, donc on va partir à Pont-de-Buis, Quimerch. C'est dans le Finistère, donc ça fleure bon la Bretagne, évidemment, avec un nom comme ça. Et la grève chez Nobel Sport, c'était le 11 septembre. La trentaine de salariés qui manipulent de la poudre. Alors, c'est pas de la poudre de riz, hein, je vous le dis tout de suite. C'est de la poudre à canon. Encore, et oui, de simples bases, précise-t-il, donc pour les tirs sportifs, c'est encore une reprécision. Donc 30 sur 200 ont stoppé, 30 salariés sur 200 que comporte l'effectif ont stoppé la production, aidés par le syndicat Sud Chimie et le syndicat FO, car ils ont eu chaud dans les ateliers. Trois départs de feu en deux semaines, ça fout les chocottes et la colère. Surtout, il dénonce les conditions de travail, de sécurité insuffisantes, les cadences qui doivent augmenter à 3100 tonnes par an de poudre pour 2500 à ce jour, 24 heures sur 24, dans cette usine qui est classée évidemment Céveso, où le contrôle défaille, la formation aussi, la direction silencieuse. Faut faire un peu de pétard pour obtenir aussi 15 euros de prime de risque par jour. La production devait reprendre donc le 18 septembre sans avoir obtenu des revendications, le paiement des jours de grève par exemple. Réalité économique oblige, les salariés ont donc cessé leur lutte pour peut-être une autre partie de Baltrap avec le bonjour d'Alfred. Je vous le dis, hein, c'est le chimiste industriel de l'armement, inventeur de la dynamite, donc Alfred Nobel. Alors, je ne sais pas s'il y a un rapport avec la tôle, là, enfin avec la société. Mais enfin, bon, voilà, quoi. C'est pour finir sur une bonne note. Villeneuve-sur-Lot, Lot et Garonne, rien que le titre donc, des journaux inquiète, suspicion de maltraitance et de menace sur le personnel. Alors, qui a donc nécessité, donc cette annonce a nécessité une grève de 24 heures le 14 septembre chez Relais. Relais, c'est le réseau d'entraide, de liaison, d'accueil et d'insertion sociale. C'est une association qui a quand même l'âge vénérable de 60 ans d'existence, qui, jusque-là sans rien, sans problème, le calme parfait, et puis la mouche dans le lait. Mouvement spontané en direction du conseil d'administration sur les décisions à prendre concernant le staff. L'association a une centaine de personnes en charge. Le directeur, le Dirlo, est visé. Maltraitance sur les résidents, les résidentes, et menace sur trois salariés, lanceurs d'alerte. C'était au mois de décembre 2022. Alors, un audit a été exigé par l'inspection du travail. C'était le 15 septembre. Je n'ai pas les résultats. À Lardin-Saint-Lazare, c'est en Dordogne, et c'est une suite donc aux papeteries de Condat. J'avais relaté un peu leurs soucis il y a quelque temps, avec un plan social visant 187 emplois après et donc après 17 jours de lutte. Il y a eu une fin du blocus décidé après des avancées. Enfin, des avancées, on dit toujours ça, mais des avancées certainement à petits pas, mais qui se rapprocherait quand même des revendications selon la CGT. Alors, les départs à la retraite seraient plus avantageux, 70% du salaire brut des 30 derniers mois d'activité, 500 euros par année d'ancienneté pour les autres licenciés. Pour la production, ça pêche un petit peu, notamment sur la production de leur spécialité qui est le papier couché, hein, qui est la spécialité de la maison, et la seule en service en France. Donc ça sera probablement la fermeture inévitable. est évoqué aussi donc le modernisme par le directeur de l'ECTA, qui est l'usine qui produit le fameux papier couché. Les syndicats tiennent à sauver cette production par l'intermédiaire d'un repreneur. Mais là, il y a une obstruction flagrante de la direction, urgence absolue, car le PSE se termine, ça enclenche donc une urgence absolue, parce que le PSE se termine donc le 11 octobre. Les syndicats jouent sur le maintien de l'outil industriel national et sur un label France, Cocorico, donc du site. L'intersyndicale se repose sur une décision des autorités de l'État. C'est quand même un peu la grise du côté des salariés. La grève a cessé avec une courte majorité quand même, voilà, lors d'une assemblée générale, je suppose. À Montpellier, maintenant, dans l'Hérault, le 13, le 14 et le 15 septembre, sur le site du CHU de la Péronie, ça concerne les travailleurs agents d'entretien de la société Honnet, ou honnête, hein, je crois qu'on dit honnête, hein, grève dès 5h du matin avec un bon soutien des camarades hospitaliers pour ce conflit illimité. Conflit pour les salaires, mais pas que. La direction d'Honnête impose de pointer sur téléphone à chaque entrée dans une pièce à nettoyer. Un marquage à la culotte, donc, mais pas que le chômage, mais pas que. Il y a aussi le chômage technique qui est imposé et sans compensation en cas d'un manque de chantier. Des tâches supplémentaires également, donc qui amènent une charge de travail et cerise, je dirais, sur le gâteau, comme d'habitude, des sanctions à la clé. Alors, refus des salariés qui revendiquent l'arrêt de la répression, plus de temps pour le travail à effectuer. Il réclame également, il revendique un 13e mois, donc en prime, et la direction du CHU se cache encore une fois là, derrière la direction de Honnet. C'est pas nous, on ferme les yeux sur les conditions de travail du sous-traitant. Donc Honnet, qui est une entreprise à multiples activités, à multiples facettes, est la propriété de la famille Coquet-Régnier. Vous connaissez maintenant mon amour pour les familles.
Oui, c'est ça.
Donc la famille Coquet-Régnier. Alors un chiffre d'affaires à 1,9 milliard d'euros. C'est un chiffre de 2020. Donc il a dû certainement augmenter. La famille est classée 264e fortune en France, avec un modeste 500 millions d'euros en 2023. Donc des petits joueurs, mais aussi certains, mais... Ouais, des petits joueurs, ouais, par rapport à certains, mais aussi des gros exploiteurs. Cette société a quand même été créée en 1860. Je ne sais pas quelles étaient les conditions de travail à cette époque-là. Oui. Mais je pense que ça ne devait pas être jojo. Ça n'a pas changé. Quoi. Voilà. Bref, allez, c'est terminé pour moi.
Bah, une petite brève du coup pour finir, puis on vous rappellera le rendez-vous de demain. C'est une petite chose qui se passe en Grèce. Je ne sais pas si vous connaissez l'entreprise autogérée Viom, ou Viomé, je ne sais pas comment on dit. Et bah, du coup, elle va sûrement être expulsée demain. Je vous raconte tout ça. C'est une petite brève du site Rapport de Force qu'on vous conseille toujours autant. Branle-bas de combat autour de l'usine autogérée Viomé dans la région de Thessalonique en Grèce. Donc demain, jeudi 28 septembre, la vingtaine de personnes qui y produisent des savons et des lessives écologiques pourraient être expulsées de la coopérative par la police. Pour rappel, en 2011, au cœur de la crise grecque, les travailleurs de Viomé, propriété de Filker Ram Johnson, alors en faillite, occupent l'usine pour réclamer le paiement de leur salaire. L'année suivante, ils redémarrent l'activité à leur compte, sans patron, et remplacent la production initiale de colle pour carrelage en savon et lessive écologique. Aujourd'hui, l'expérience dure depuis plus de 10 ans, mais elle subit une forte pression depuis le retour de la droite au pouvoir. Faute d'avoir été sanctuarisée légalement lorsque Syriza gouvernait le pays, la coopérative est soumise au risque de rachat aux enchères de la société Filker Ram Johnson pour régler ses dettes. Si pour l'heure, les travailleurs de Viomé et leur soutien avaient toujours réussi à empêcher la vente, en février dernier, un homme d'affaires actif dans le secteur de l'immobilier a racheté le site pour plus de 9 millions d'euros. Et au cours des dernières semaines, secondé par la police, il a tenté de récupérer son acquisition. Jusque-là, en vain, hein, face à la résistance des Viomets et de leur soutien. Mais un ultimatum a été fixé donc à demain pour évacuer les lieux. Une injonction à laquelle les travailleurs de l'entreprise autogérée n'ont pas décidé de se plier. Donc demain, ils appellent leur soutien à une manifestation massive à midi devant le ministère du Travail. On espère que ça se terminera comme il faut. Il me semble qu'il y a quelques lieux sur Lyon et ailleurs où vous pouvez retrouver leurs produits d'ailleurs, Viomets. Mais notamment, je pense, nos camarades de Montpellier, la librairie La Mauvaise Réputation, du coup, en mettent en vente, en soutien, du coup, à cette entreprise. Donc voilà, l'émission va se terminer dans deux petites minutes. Mais voilà, le temps de vous rappeler peut-être les horaires de la permanence de la librairie, de notre librairie, La Plus Noire, autogérée également. Donc ce sont les mercredis 17h30, 19h30 et le samedi de 15h à 19h. Et lorsqu'il y a une mobilisation de rue le samedi, nous essayons d'ouvrir la librairie à la suite de cette mobilisation. Ça a notamment été le cas le samedi dernier, puisque nous étions présents à la manifestation contre la violence policière, notamment. Voilà. Donc voilà, le rendez-vous de demain, Journée internationale du droit, de lutte pour le droit à l'avortement, ce rassemblement organisé par le collectif Droits des Femmes 69, dont Lucel fait partie, à 18h, place de la Comédie. Voilà, on se retrouvera là-bas si vous y êtes. Et ben, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. On finit avec une petite minute d'avance, mais ce n'est pas très grave. Et on vous souhaite une bonne semaine. À demain dans la rue si vous y êtes, à samedi lors d'une permanence si vous venez, ou à mercredi prochain si vous nous écoutez tous les mercredis.
Et bien mercredi prochain, ce sera nos camarades qui reprendront le micro.
Exactement.
Le flambeau. Allez,
bonne soirée à vous et bonne semaine.
À toutes. Au revoir.